Lynch s'accueille du 21 novembre au 19 décembre la première biennale de l'art contemporain Yango autour du thème avancé. 25 artistes venus d'Asie, d'Europe, des Caraïbes et d'Afrique présentent leurs œuvres dans plusieurs sites, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut Français et l'Échangeur de Limité. Au menu, des expositions, installations, performances, ateliers, conférences-débats, workshops et spectacles de musique. La Biennale Yango est un événement de l'agence de production Mutotu en collaboration avec Radio Capi.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la prise en charge médico-légale des victimes des violences sexuelles. Une femme victime des violences sexuelles est affectée tant sur le plan physique, psychique et social. Faute d'encadrement, la plupart d'entre elles se replient sur elles-mêmes et ont du mal à reprendre goût à la vie. Alors comment assurer une bonne prise en charge médico-légale des victimes des violences sexuelles? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le professeur Dr Chomba Ondo, ambassadeur de la paix générale médecin légiste. La première question, docteur Chomba, est de savoir c'est quoi la médecine légale?
La médecine légale, c'est en raccourci, la médecine est judiciaire. C'est donc une discipline médicale à l'interface entre la médecine et la justice. Elle éclaire le magistrat sur les aspects médicaux des cas qu'il a à traiter. Ça, c'est un aspect de la médecine légale. L'autre aspect, c'est à la médecine légale d'apprendre aux médecins leur déontologie, c'est-à-dire qu'ils sachent les textes qui régissent leur art, leur pratique. Voilà la médecine légale.
Voilà, c'est cela la médecine légale. Alors aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge médico-légale des victimes des violences sexuelles. Alors comment peut se faire cette prise en charge?
Bien. Comme la médecine légale, c'est un pont, une passerelle entre la médecine et la justice, c'est le médecin légiste qui est le mieux indiqué pour expliquer au magistrat ce type de problème lorsqu'une femme ou un homme se trouve dans cette situation. Le médecin légiste est le mieux habilité à pouvoir expliquer tout ça au magistrat. La prise en charge des violences sexuelles, en fait, elle doit être globale. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des lésions physiques que l'on peut voir, mais il y a aussi des répercussions psychologiques et psychiques que l'on ne voit pas. Et donc, il faut tenir compte de cet aspect pour aider la personne qui se trouve dans une situation pareille. Mais ça, ce sont les soins et le suivi. Mais il y a la partie judiciaire, parce que celui qui a commis cette infraction doit répondre de ses actes devant...
Si la victime va dénoncer ou va se porter plainte.
Ah, bien sûr, bien sûr. Tant que la victime ne porte pas plainte, la justice ne sera pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les victimes éventuelles de toujours porter plainte. Toujours porter plainte, de façon à ce que la justice soit mise en route pour neutraliser ceux qui font, qui commettent ce type d'infraction.
Et lorsque la victime vient porter plainte, alors à ce moment-là, le juge fait appel au médecin légiste?
Bien entendu, parce que lui, il n'a pas la formation biomédicale, il n'a pas qualité pour pratiquer l'exploration corporelle, c'est-à-dire faire un examen physique. Il n'a pas qualité pour déshabiller quelqu'un, que ce soit physiquement ou psychiquement. C'est le travail du médecin. C'est une prérogative du médecin. Donc, il doit passer par le médecin. Entre autres, son médecin légiste. Le médecin légiste...
Pas le médecin généraliste. Il faut absolument voir un médecin légiste.
Il peut voir le médecin généraliste dans la mesure où celui-ci est bien formé. Pas de problème. Mais s'il n'est pas bien formé, les éléments de preuve qu'il apportera ne vont pas convaincre le magistrat. Et tant que celui-ci ne sera pas convaincu, il ne pourra pas dire le droit. Et alors, des authentiques criminels vont continuer à déambuler et même à narguer leurs victimes, faute d'avoir été condamnés. Non pas parce que il y a eu corruption du magistrat, mais tout simplement parce que au niveau de la collecte des éléments de preuve, ça a été mal fait, et ce que l'on a apporté au magistrat ne l'a pas convaincu. Et tant qu'il n'est pas convaincu, il préférera libérer 10 authentiques criminels plutôt que de condamner un seul innocent.
D'accord. Alors, lorsque la victime arrive auprès du médecin légiste, alors, quels sont les examens ou qu'est-ce que vous allez faire pour réunir toutes les preuves qui vont convaincre le magistrat
d'abord,
et le permettre de dire le droit?
Tout à fait. Il faut d'abord mettre la victime à l'aise. Quelqu'un qui a subi ce genre d'humiliation n'est pas dans un état normal, un état d'esprit normal.
La personne est traumatisée.
Oui, elle est traumatisée. Donc, il faut savoir comment la prendre, comment la mettre à l'aise. Il faut l'écouter attentivement, la laisser s'exprimer dans ses propres termes. Et ensuite, poser quelques questions pour préciser les endroits, les heures, ainsi de suite, sont tous des éléments utiles à l'enquête. Ensuite, il faut procéder à l'examen. À chaque étape de l'examen, il faut lui expliquer ce qu'on va lui faire. Et qu'elle soit à l'aise. Si elle a compris, elle va accepter et vous allez travailler correctement. Si elle n'a pas compris, il faut insister.
Il faut qu'elle comprenne la démarche. Oui.
C'est ça que l'on appelle l'information éclairée. Parce que si la personne ne comprend pas, elle va se rebiffer. Il sera difficile de collecter les preuves. Il faut lui expliquer le bien fondé de tout ça, parce que c'est le passage obligé pour prélever ce qu'il faut prélever, de façon à convaincre le magistrat pour que celui-ci punisse l'auteur de l'agression.
Et quels sont les prélèvements que vous allez faire sur la victime?
Bien, il y a beaucoup de prélèvements, et tout dépend du tableau clinique, et tout dépend du timing par rapport au temps. Au moment où la victime vient vous voir. Dans les meilleurs cas, et c'est très rare, le même jour, on voit la victime, là, toutes les lésions, que ce soit physiques, sont encore fraîches, comme on peut dire, et donc facilement, on peut facilement les décrire, les dénombrer, et les prélèvements aussi. Comme prélèvement, il y a l'urine, il y a les sécrétions vaginales qui nous permettent de voir, même au cabinet déjà, s'il y a eu s'il y a la présence des spermatozoïdes ou non. Ce sont tous des éléments qui peuvent aider à l'enquête et qui peuvent aider à ce que le magistrat se forge sa propre conviction.
Alors là, à ce moment-là, la victime doit se présenter dans les 48 heures après le forfait.
Dans les 72 heures, 72 tout au moins, heures. Parce que au-delà, certaines précautions ne sont plus valables, et au-delà, certains éléments disparaissent. Et dans les 72 heures, on a plus de chances de trouver beaucoup d'éléments qui permettent de convaincre le magistrat.
Et vous vérifiez s'il y a eu des traces, par exemple, des brutalités sur la victime. Tout ça, ce sont les prélèvements, les éléments.
Non, sont des éléments, parce que sont des éléments de preuve. Quelqu'un qui consent à un rapport ne va pas se laisser brutaliser, à moins que son partenaire soit dérangé. Mais si c'est un rapport consenti. La personne se laisse faire.
Il n'y a pas de traces de brutalité.
Il n'y aura pas de traces de brutalité. Et ça aussi, la présence de cela lorsqu'on décrit, donne aussi la force à l'argumentation pour dire que cette personne a lutté, a tenté de lutter. Et on va trouver les marques de coups d'ongle pour immobiliser la victime. On va trouver des lésions qu'on appelle des ecchymoses, les bleus, des choses comme ça. Dans certains cas, on peut avoir des plaies beaucoup plus importantes qui nécessiteraient un traitement chirurgical approprié.
Alors, si je comprends bien, bon, la plupart des prélèvements c'est fait au niveau de l'appareil génital de la victime.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et même sur tout le corps, partout où la personne a laissé des traces, par exemple la salive, s'il y a eu sperme à l'extérieur, on doit prélever tout ça, étiqueter, numéroter, et tout ça sont des éléments à présenter au magistrat.
Alors que j'imagine le réflexe d'une victime d'un viol, elle préfère aller d'abord se laver, éliminer. Elle a l'impression d'être essuyée. Bon, elle est essuyée, elle doit se laver rapidement et puis ce sont les preuves qui s'en vont.
Effectivement, et c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans la sensibilisation, il faut expliquer aux victimes que en pareille circonstance, il ne faut pas recourir au premier réflexe de se débarrasser de la souillure en se lavant. Ce faisant, on élimine les éléments de preuve.
Elle peut se dire que voilà, je dois éliminer rapidement, sinon je vais tomber enceinte, sinon, ben voilà, il y a tout ça.
Oui, mais tout ça, il faut leur expliquer. On ne tombe pas enceinte comme ça. On tombe enceinte lorsque les éléments tombent au moment où on est en période d'ovulation. Mm-hmm. Donc tout ça, lors de l'anamnèse, comme on dit, de l'interrogatoire, on a tous ces éléments qui orientent aussi les prélèvements à faire par après. Donc il faut tout faire pour ne pas se laver et apporter tout. Slip, tout ce que l'on peut disposer, mm-hmm. ça peut aider comme élément de preuve.
Bien, nous parlons de la prise en charge médico-légale des victimes des violences sexuelles. Comment cela peut se faire? Amoury nous appelle des Kamina. Malonga est à Kinshasa. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Martin Kobler fait le bilan de l'année 2014 et répond à vos questions en direct sur les médias sociaux de la MONUSCO et sur www.radiokepi.net ce jeudi 4 décembre à partir de 15h30, heure de Kinshasa. Vous voulez participer au débat? C'est simple. Suivez-nous et envoyez vos questions et commentaires sur les pages Facebook de la MONUSCO, de Radio Kepi et sur Twitter. Une heure avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'est ce jeudi 4 décembre de 15h30 à 16h30, heure de Kinshasa. Toutes vos questions sur la MONUSCO sont les bienvenues.
Prise en charge médico-légale des victimes de violences sexuelles. Amoury, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi, oui. Ainsi qu'à notre invité du jour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'avais quelques préoccupations à poser à notre invité concernant les signes cliniques. Je pense qu'il a expliqué concernant les 48 heures. Si peut-être une femme a été violée il y a de cela une semaine ou bien une semaine et demie, il vit peut-être loin de la justice. Est-ce que c'est les médecins pourront trouver des signes cliniques constatant que non, cette femme a été violée ou pas? Et puis ma deuxième question réside sur donc... sur le problème des femmes. Il y a de ces femmes-là qui se font violer elles-mêmes et puis ils aillent porter plainte parce qu'ils n'étaient pas en bonne, donc ils ne sont pas bien entendus avec le monsieur à qui ils ont commis cet acte. C'était mes suggestions-là que j'allais donner aussi.
D'accord, merci. Malonga, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité, à tout le monde.
On vous écoute Malonga.
Ok, merci beaucoup. J'ai très bien suivi avec attention notre invité. Surtout, je m'attelle sur le point de se plaindre. Ah bon, la victime, l'État aussi a des dommages dans ces cas-là. Il y a les cas qui se passent en flagrance. Même les concernés ne se plaignent pas, mais l'État peut agir. Hein? Si... Tout le monde est connu déjà que non, celui-ci a été violé. Est-ce qu'il faut attendre encore jusqu'à ce que celui-là viendra se plaindre? Forcément, la justice qui est là poursuit jusqu'à la fin et a condamné ce cas. Même la question de mon confrère qui vient de dire là-bas, la population elle-même, l'État c'est moi, si le fait est constaté, d'abord les hommes, les personnes qui sont là doivent arrêter celui-là. Et si la justice viendra, va aussi rehausser et dans ce cas-là. Bon, je vais demander ceci. Est-ce que l'invité peut m'éclaircir si une femme est violentée ou bien est violée? Là, à Bukavu, nous avons déjà notre expérimenté, docteur Mukweg. Il a déjà une adresse bien reconnue. La femme vient à une distance. De quelle façon il procède pour découvrir que vraiment que non, cette femme a été violée réellement.
Parce d'accord,
que
merci.
Je vous ai dit qu'après d'accord. 72 heures, mm-hmm. en tout cas les traces peuvent disparaître.
Merci beaucoup, bon. Malonga. Docteur Tumba.
Oui, c'est très bien. Bonjour d'abord à nos frères et merci pour les questions. Je vais répondre en vrac parce que ça se recoupe. Mmh. C'est vrai que lorsqu'on insiste pour que dans les 72 heures on puisse avoir accès aux examens, c'est justement parce que les lésions sont encore fraîches. On peut facilement les dénombrer, on peut facilement les analyser. Plus le temps passe, plus l'organisme essaie de réparer les lésions. Mmh. C'est ainsi que une semaine après, les lésions n'ont plus la même forme. Une lésion récente a des caractéristiques qui nous permettent de dater l'agression. La peau est rouge, il y a des saignements, il y a des choses comme ça. Mais après quelques jours, ce n'est plus comme ça. Si on voit cette personne après et que l'on ne retrouve pas ces lésions, ce n'est pas pour autant que cette personne n'a pas été violentée. C'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention. En général, lorsque le problème se pose, il y a la parole de la victime, que nous appelons survivante parce qu'elle a osé porter plainte, et donc elle ne veut pas subir passivement l'agression, contre son agresseur. C'est en l'écoutant attentivement que l'on va voir si ce qu'elle dit peut être corroboré par ce que l'on va trouver à l'examen. Mais plus le temps passe, plus les éléments qui nous permettent de faire le lien entre les lésions que l'on voit et ce qu'elle a dit disparaissent. Ça devient difficile, effectivement. Parlons des cas lointains, après une semaine.
Ou après un mois.
Ou après un mois. Arriver. Ça arrive. Mais il y a des catégories. Une jeune fille qui n'a jamais eu de rapport. En cas de rapport forcé,
oui.
Il y a des éléments qui nous facilitent le diagnostic du viol. Encore que il n'appartient pas au médecin de dire qu'il s'agit de viol. Ça, c'est la prérogative du juge qui doit qualifier l'infraction. Mais on va lui donner les éléments d'après l'examen qui lui expliquent, qui lui font comprendre qu'il s'agit de tel type d'infraction. Alors là, lui, smash. Chez une femme qui a déjà des rapports, ainsi de suite, mais qui a été prise de force, c'est-à-dire sans son consentement, c'est ça la définition du viol. Plus le temps passe, plus ça devient difficile. Mais si on la voit dans les 72 heures et en espérant qu'elle ne se soit pas lavée, on peut faire effectivement des prélèvements. Si on trouve ce type de prélèvement, c'est déjà un élément. Mais ça ne nous indique pas la personne qui a fait ça. Mais comme elle a désigné quelqu'un, on fera des examens chez cette autre personne pour voir si les spermatozoïdes que l'on a trouvés ont le même profil d'ADN que les cellules de l'agresseur. À ce moment-là,
les traces des spermatozoïdes peuvent être trouvées dans combien de temps? Après 2 jours, 3 jours?
En 72 heures, on les trouve.
On les trouve encore.
On les trouve encore, oui. Pour la plupart morts. Mais on les trouve. Et si on a la chance de faire des prélèvements dans les 72 heures, on sèche les sécrétions, on peut conserver cela pendant des années. Les spermatozoïdes asséchés.
Mais quand il y a un mélange avec les sécrétions vaginales, oui, ça devient compliqué, difficile.
Pas du tout, pas du tout. Quand on regarde au microscope, une cellule, c'est une cellule qui est différente de telle autre cellule. Une bactérie, c'est une cellule qui est différente de d'autres bactéries, ainsi de suite. Non. Là, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Jean des Dieux nous appelle des Kikuit, maître Papi Kachemaïta Kinshasa. Jean des Dieux, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, c'est l'autorité.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup. J'ai des préoccupations. Ma première préoccupation, je voulais juste demander à notre invité qu'il puisse me définir d'abord qu'est-ce que la violence. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens ont la tendance de dire que non, son père volait seulement une fille mineure, celui qui n'a pas encore totalisé 18 ans, soit 20 ans. Ma deuxième préoccupation, c'est après combien de jours où on pourrait aller arrêter quelqu'un qui avait la violence, parce que des fois, quelqu'un qui a
Jean
été
Dieu.
Violé
Jean
après
un mois, deux mois,
et quand on vient voir encore la personne, on dit que non, c'est celle-ci qui
Jean
a été violée, on l'arrête, il n'y a pas les éléments de preuve.
Jean des Dieux. Alors, toutes vos questions ne cadrent pas avec le sujet du jour. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge médico-légale des victimes des violences sexuelles. Donc, vos questions, vous pouvez les garder. On va répondre, l'invité répondra à cela une prochaine fois. Maître Papi Kassema, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la prise en charge médico-légale des victimes des violences sexuelles. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je vais seulement poser une question à notre invité. Mmh. Parce que quand je l'entends parler, il fait seulement l'illusion des victimes, femmes ou filles. Alors, qu'en est-il par rapport aux victimes hommes? Parce que la loi relative aux violences sexuelles a aussi érigé en infraction. Donc, la victime peut être femme ou homme. Alors, par rapport à une précision à la question d'un intervenant, les infractions de violences sexuelles ne sont pas celles dont les poursuites doivent être subordonnées à la plainte. Donc, les magistrats ou les officiers du ministère public peuvent se saisir d'office en dehors ou à l'absence d'une plainte. Je vous remercie.
D'accord, merci. Fabien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis donc à notre invité.
On vous écoute.
Oui, une question de curiosité. Donc, j'aimerais savoir à notre invité si les pistes, dans certains langages qui nous ont dit les tiels, sont aussi concernés par cette prise en charge, car eux aussi connaissent ces cas, mais font semblant du fait que c'est leur gagne-pain du jour. Voilà.
D'accord, merci. Je reviens à vous, docteur Tchumba. Il y a Malunga de Kinshasa qui avait posé la question de savoir est-ce qu'il faut toujours attendre que la victime vienne se plaindre ou bien le magistrat peut aller directement rechercher ou le procureur aller rechercher les infractions. Donc il y a aussi Maître Papi qui est revenu là-dessus.
Oui, mais il faut savoir que pour que la justice s'agisse, il faut qu'elle soit au courant de quelque chose. Par la plainte, par la dénonciation ou par d'autres moyens. Mais si la justice apprend qu'il y a eu infraction, c'est son travail, c'est le ministère public qui doit se charger de cela, qui se charge de cela, par ses investigateurs de terrain qui sont les OPJ. À partir du moment où on sait qu'il y a une infraction, on doit vérifier effectivement qu'il y a eu infraction, collecter les éléments de preuve qui confirment l'infraction et ensuite arrêter dans la mesure du possible le contrevenant et le traduire, le cas échéant, devant le juge qui, lui, va dire le droit.
D'accord.
Ça, c'est la procédure. Mais en cas de flagrance, ceux qui sont témoins peuvent effectivement arrêter
le
violeur et l'emmener à la police. C'est tout à fait normal. Mais ils ne sont pas habilités ni à maltraiter le violeur, ni à le battre. Ils doivent seulement le neutraliser et l'emmener à la justice qui doit faire son travail.
Avant de répondre aux autres questions, nous allons accueillir Madame Pacifique de Kinshasa. Bonjour. Madame Pacifique, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
J'ai voulu demander le jeu peut se passer et que les violeurs profitent. Bon, si on prend la victime, on peut prélever comme le docteur l'invité vient de le dire. Est-ce qu'il y a moyen de détecter, prendre ces éléments et détecter le violeur, faire les enquêtes et l'attraper ou pas?
Détecter, vous parlez de détecter quoi?
C'est-à-dire, ce que vous trouvez sur la fille, certaines choses, et si on peut évaluer, détecter le violeur,
Voilà, la communication n'est pas très très bonne, Madame Pacifique, mais je crois avoir compris aussi sa question. Est-ce qu'à partir de les violeurs a laissé des traces, à partir du 16, est-ce qu'on peut les rattraper s'il enfuit?
Oui, le jour où on l'attrape, on va confronter.
S'il a laissé des traces, par exemple, des spermatozoïdes.
Oui, bien sûr. Ouais. On va, même la salive, on va confronter cela par rapport à ses caractéristiques d'ADN. Là, on le confond. Mais c'est pour ça qu'il faut, lorsque le problème se pose, que ce soit un homme ou une femme, être vu le plus rapidement possible. Parce que c'est là que l'on peut prélever ce que l'on doit prélever et les conserver le temps nécessaire. Mais si,
donc il faut voir le médecin légiste.
Le juge. Non, pas nécessairement le médecin légiste. Quand ouais. une victime se trouve dans une situation pareille, il faut voir le médecin, son médecin.
Le plus tôt que possible.
Le plus tôt que possible. Comme ça, il va prélever ce qu'il faut prélever. Mmh. Le temps de l'enquête, ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais bon, la loi nous oblige à tout terminer en 3 mois. Le jour où la personne porte plainte chez l'OBJ, l'officier de police judiciaire, dans les 24 heures, doit informer, même par téléphone, l'officier du ministère public dont il dépend, pour lui dire « j'ai un cas de viol ». Et mener l'enquête tambour battant. Ça veut dire nous envoyer une réquisition, pour que l'on puisse procéder à l'examen et au prélèvement nécessaire. Mmh. Et nous, nous arrangeons au département de médecine légale, à l'hôpital provincial général de référence, dans les 48 heures, nous envoyons un rapport préliminaire, parce que les examens de laboratoire prennent plus de temps. Alors que le magistrat a besoin de savoir les grandes orientations pour qu'il poursuive ses enquêtes ou non. Voilà un peu comment ça se passe.
D'accord. Même pour le cas d'un homme qui a été violé par les femmes, c'est pareil. Il doit se présenter auprès de son médecin pour...
C'est vrai que la femme peut violer l'homme d'après la loi, mais c'est souvent l'homme qui viole encore l'homme le plus souvent. Dans ce cas-là, il y a aussi des prélèvements que nous faisons qui permettent...
Vous parlez des homosexuels, là.
Oui, il y a des homosexuels, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas homosexuels, mais qui sont violentés par ceux qui...
Alors, il y a un auditeur qui a parlé d'une prostituée qui a déjà des relations sexuelles tous les jours.
C'est ça.
Alors, si elle est violée, comment réunir les preuves?
Mais justement, on revient au fait que il faut son consentement. Ce n'est pas parce que c'est son travail que vous pouvez en abuser comme... ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elle a une mauvaise conduite que vous pouvez vous permettre d'agir comme ça. Lorsqu'elle porte plainte, ça signifie qu'elle n'a pas donné son consentement. Donc vous l'avez violentée. Et souvent elle porte plainte parce que les gens se sont entendus pour un certain prix. Et puis après... l'homme ne respecte pas cela. Donc elle va porter plainte. Maintenant, il faut expliquer au magistrat pour qu'il comprenne la nuance.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc on retient qu'il est important, lorsque une dame ou une jeune fille est violée, il faut aller rapidement voir son médecin.
Très juste.
Pour qu'il puisse recueillir les preuves.
Oui.
Et ensuite porter plainte. Et le juge, à son tour, va saisir le médecin légiste pour faire des examens. Et sur base de ces examens, de ces prélèvements, il pourra maintenant dire le droit.
Exactement.
Voilà. Il pourra dire les droits. Alors, vous êtes le seul médecin légiste au Congo. Vous pensez déjà former d'autres médecins?
On a déjà commencé.
Vous avez déjà commencé?
Oui. On a commencé en 2012. Pendant 3 ans, les 17 premiers vont sortir l'année prochaine.
Quand on dit qu'il n'y a pas des succès sans successeur. Hein.
Non, c'est parce que c'est très très important. Notre société n'a pas encore compris la place de la médecine légale et la difficulté aussi. C'est le fait que la médecine légale soit encore au stade embryonnaire chez nous, c'est un... c'est une discipline d'abord importée. Deux, les étudiants en médecine ne voient pas la médecine légale comme les autres disciplines hospitalières, gynéco, pédiatrie, médecine interne, chirurgie, parce que la médecine légale n'est pas une discipline hospitalière. Donc, ça ne les frappe pas. C'est seulement maintenant que l'on en parle, que l'on... ce que vous faites là, c'est très très bien, parce que ça contribue à la sensibilisation et à la vulgarisation. Mmh. Et d'un autre côté, c'est une discipline qui n'était pas enseignée correctement en faculté, parce qu'il n'y avait pas de professeur de médecine légale. Ça aussi, c'est un élément.
Voilà. Alors, pour terminer, nous rappelons aux auditeurs qu'il y a le bureau du représentant personnel du chef de l'État pour les violences sexuelles a mis en place un call center, un numéro par lequel les victimes peuvent appeler pour dénoncer des cas de viol. Alors, ce numéro, il est le 089-70-00-222.
Oui, on peut le répéter, c'est 089-7 suivi de 3-0, voilà. Suivi de 2-2.
C'est beaucoup plus facile.
Voilà.
Et vous travaillez à l'hôpital général, travaille en collaboration avec le bureau du représentant personnel.
Oui, d'ailleurs, nous avons eu l'honneur de la recevoir vendredi passé.
D'accord.
Elle est venue de nous apporter un don de médicaments et de kits de premiers soins.
D'accord.
Femme racée. Intelligence vive, bon choix du président en tout cas.
Bien, merci docteur Tchomba Ondo. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la paix, général médecin légiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.